Est-ce que la couleur de ta peau a eu un rôle déterminant dans ta vie?
Très très présent dans ma vie.
De quelle façon?
Un complexe pendant longtemps. Et maintenant, c'est plutôt une sorte de combat que j'ai pour essayer de que ce soit plus un complexe. À l'école, quand on est tout petit, c'est vraiment super cash. On m'a répété, je pense, 500 fois que j'avais la couleur du caca. Je fais semblant de rire parce que, voilà, sur le moment, je fais comme si c'était drôle. On m'a répété plein de fois que mes cheveux étaient moches, que je ressemblais à une sorcière. C'est ultra blessant et c'est surtout un moment de ma vie où, enfin, vraiment, j'étais en train de me construire. Du coup, je me suis construite avec ces idées-là et ça m'a créé des complexes énormes sur mon apparence.
Quel est le souvenir le plus douloureux?
Je saurais pas dire. Peut-être que c'est le fait qu'il y ait plusieurs personnes dans ma famille qui, où je suis la seule personne à qui on fait pas la bise. C'est, en soi, le geste est pas, mais c'est violent. Enfin, symboliquement, c'est assez violent. Toutes les fêtes de famille, je vois clairement les personnes qui vont pas me saluer. Et alors que c'est ma famille.
Et t'es la seule à qui on ne fait pas la bise.
Ouais. Ah, il y avait mon père quand il était encore avec ma mère, et puis maintenant, il y a plus que moi.
On ne sait pas si on peut s'embrasser ou pas, mais bon.
Ça va?
D'emblée, on vous dit oui, vous êtes différente et il faudra lutter, quoi. Il faudra, c'est pas quelque chose, vous traînez pas ça comme un boulet, hein, mais c'est, oui, c'est une identité remarquable que vous allez devoir assumer, non pas parce que vous le voulez, mais parce qu'on vous le renvoie à longueur de temps.
Quel est le souvenir le plus douloureux?
Une aventure au niveau de l'université où vous débarquez, vous faites votre examen oral et puis le professeur vous dit « Mais mademoiselle, vous êtes adoptée ?»« Pardon, vous êtes adoptée ?»« Non, je suis pas adoptée, mes deux parents sont bien noirs, d'origine africaine. » Et « Ah ouais, vous êtes tellement excellente que je me suis posé la question. » Alors, je vous laisse donner la suite que vous voulez à cette phrase, mais pour moi, c'était assez triste parce que c'est pas, ouais, c'est quand même un professeur d'université qui vous dit que pour être excellent, il faut avoir des parents blancs.
Cette série en parle de notre regard. Quel est notre regard envers des personnes qui ont une condition sociale différente, une nationalité différente, une apparence différente d'une autre ou un sexe différent d'une autre? Et bien sûr, c'est un sujet beaucoup plus vaste. On pourrait parler des préjugés, par exemple, contre les personnes âgées, comme si les personnes âgées ou le goût des personnes âgées n'avaient plus de place dans le monde, ce qui est clairement un préjugé. Il peut être un rabaissement des enfants. C'est aussi un groupe qui parfois n'est pas écouté, n'est pas pris en compte selon le contexte ou l'endroit où ils sont. Ça peut être peut-être le regard envers quelqu'un qui n'a pas le standard de beauté attendu dans notre époque, le corps attendu ou le visage attendu pour notre époque. Ça pourrait être une profession, une manière de penser, un style de vie, une condition physique. Il y a des thèmes pour plusieurs messages à plusieurs intervenants. Mais ce n'est pas un problème, parce que les principes qu'on parle ces dimanches sont valables pour tous les préjugés, tous. Tous les préjugés qu'on a cultivés, chacun au fil des années. Et aujourd'hui, en parlant sur le racisme, vous verrez que c'est encore plus vrai, que le principe d'aujourd'hui vaut pour tous les sujets de cette série. Au Brésil, j'ai eu le privilège, depuis l'âge de 9 ans, de grandir proche des familles les plus pauvres de la ville de Recife. Il faut voir pour croire. Le bâtiment de l'église était situé, et ma maison, du coup, de l'armée du salut, ma maison était située de ce côté de la rue. On traversait, et puis on était déjà à côté de la rivière, où il y avait un grand complexe de maisons sur pilotis au bord de la rivière, souvent construites en bois. Quelques-unes étaient quand même en briques, mais il fallait juste donc traverser la rue et puis on était vraiment au centre de ce bidonville de ces familles les plus pauvres. L'armée du salut avait aussi une maison au centre du bidonville pour faire des réunions de prière, mais les activités principales étaient faites dans la grande salle du poste de l'autre côté de la rue, ici dans le bâtiment externe. Et dans ce cercle social, là, l'église, insérée dans un des lieux les plus pauvres de la ville, je remarque aujourd'hui que c'est l'endroit parfait pour valoriser les gens par qui elles sont plutôt que par quelque chose d'externe. Je peux dire que dans cette église, c'était comme Paul a écrit, il n'y avait aucune différence entre femme ou homme, étranger ou brésilien, blanc, métis ou noir, avec ou sans travail. Tous, ils avaient dans les activités de l'église exactement les mêmes opportunités pour le service et pour le leadership. Notre groupe de leaders avait des personnes de tout contexte. Les trois choses qui comptaient, c'était seulement le rattachement à Jésus, le désir de grandir dans la relation avec lui et les dons de chacun. Bien sûr, si tu avais le don de chanter et tu aimais Jésus, peu importait si tu étais métisse, blanc, homme, femme, célibataire, marié avec un travail au chômage, ça n'importait plus ce genre de choses. Tu avais l'opportunité d'exercer selon tes dons. Cette église avait beaucoup d'autres péchés, rassurez-vous, mais juste pas celui-là, pas. C'est pour ça que j'ai toujours imaginé, en étant jeune, qu'il n'y avait pas de racisme au Brésil. Il y avait des petites moqueries sur toutes choses de questions physiques dans ce contexte-là. Par exemple, si j'enlevais mon t-shirt à la plage, tout le monde dirait que ça disait que ça éblouissait parce que j'étais très blanc à la plage. J'étais plus brillant que le soleil, ils disaient des choses comme ça. Mais c'est des petites moqueries sans être vraiment du racisme, sans être de l'exclusion. Mais je considère donc dans ce cercle-là qu'il n'y avait pas de racisme. Et comme c'était une grande partie de ma vie, passer du temps avec ces gens dans les activités de l'église, les gens de mon âge, j'imaginais que c'était une règle générale du pays. Il n'y avait pas de racisme au Brésil. Quand quelqu'un me demandait, je dis non, ça c'est un truc des États-Unis. Il n'y a pas au Brésil. Mais quand je suis devenu adulte et j'ai commencé à réfléchir, j'ai regardé en arrière, j'ai visualisé mes anciens collègues de classe dans l'école privée où j'ai étudié. Après, j'ai regardé mes propres élèves dans l'école de langue où j'ai enseigné. Et c'était clair que socialement, il y avait des inégalités raciales. Même après la fin de l'esclavage, pour ceux qui aiment les dates, c'était en 1888 au Brésil, les Blancs, ils ont continué à être les plus riches et les Noirs ont continué à être les plus pauvres. J'ai travaillé 10 ans dans une école de langue où les gens devaient payer assez cher pour étudier, pour apprendre une langue étrangère. J'ai eu 2 élèves Noirs en 10 ans et ils avaient reçu une bourse pour étudier. Vous imaginez, dans un pays très mélangé où la population blanche n'est pas majoritaire, c'est quand même très étonnant, en 10 ans, d'avoir que 2 élèves noirs qui avaient reçu une bourse. En 2021, une étude du plus grand institut de statistiques au Brésil a relevé le profil de ceux qui étaient dans la ligne de pauvreté au Brésil. 16% des pauvres au Brésil sont blancs, tandis que 72% sont noirs ou métis. Ce qui est triste, c'est que l'inégalité, historiquement, et rester lié à l'aspect physique. Donc, les Noirs sont plus pauvres, les Blancs sont plus riches. Mais en même temps, ce qui était positif dans cette histoire, c'est que ça renforçait en moi ce sentiment. L'Église locale peut apporter la réconciliation là où la société a échoué. Nous, l'Église locale, on a la force de montrer qu'en Jésus, toutes les personnes que la société a oubliées ont leur place. On a la force de montrer que tous ceux qui ont été exclus à un moment donné de leur vie sont égaux ici. Ils seront vus comme des égaux, ils seront traités comme des égaux, ils auront les mêmes opportunités, les mêmes valeurs à nos yeux, le même respect ici, dans l'église locale. L'église locale peut apporter la réconciliation là où la société a échoué. Et pourquoi je dis ça? Parce que Pierre, un disciple proche de Jésus, un homme de Dieu, il a été capable de faire de grosses bêtises dans ce domaine-là. Et donc, on n'est pas exclu de faire des bêtises similaires si on ne change pas notre regard. C'est Paul qui écrit en Galates 2. Et il le dit comme ça. « Lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. » Donc, avant l'arrivée de quelques juifs de Jérusalem, Pierre était proche des non-juifs, il les traitait d'une manière égale. Mais quand ces juifs de Jérusalem sont venus, il a arrêté de manger avec les autres. Et il s'est dit, ils sont d'une autre origine, il faut quand même que je montre que je ne suis pas très proche de ces gens-là, quand quelqu'un de Jérusalem vient. Et puis le texte continue de Paul. Les autres Juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ?» Paul dit qu'en faisant la différence entre les personnes, Pierre n'était pas en train de vivre le message qu'il prêchait. Dans ce texte, il dit « Il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile. » Pierre prêchait la réconciliation, mais dans la pratique, il vivait la séparation. Avec son attitude, il disait « On n'est quand même pas tout à fait les mêmes. Hein. On a une valeur différente. Moi qui suis d'origine juive et vous qui avez une autre origine. » C'est contradictoire au message prêché. Et on pourrait traduire le reproche que Paul a fait de cette manière. « Pierre, tu es chrétien, mais tu agis comme un non-chrétien dans ton exclusion. Pourquoi alors tu veux que des non-chrétiens se comportent comme des chrétiens ?» D'autres mots, pourquoi tu veux convertir les gens si tu agis avec exclusion? Si tu ne montres pas l'exemple pratique de réconciliation, tu ne peux pas attendre à ce que les autres veuillent devenir chrétiens, ça ne fera pas envie. Ils vont se dire, si c'est pour vivre ça, alors je suis mieux comme je suis. Quoi. Et ce n'est pas la première fois que les disciples les plus proches de Jésus ont agi avec du racisme envers une autre culture. En Luc 9, Jésus était en chemin pour Jérusalem et il a demandé à ses disciples d'entrer dans un village samaritain pour préparer un logement pour eux. Il faut dire que les Samaritains étaient un peuple mélangé. Quand les Israélites ont été amenés captifs en Assyrie, les Assyriens, ils avaient cette technique, ils prenaient un autre peuple qu'ils avaient conquis et ils mettaient à leur place ici. Donc il y avait un groupe israélien qui était resté, un groupe d'une autre nationalité que les Assyriens ont pris pour mettre en Israël. Et puis donc, ces personnes-là, les Israélites qui étaient restés sur le pays et les autres qui sont venus, se sont mélangés, ils se sont mariés et tout ça. Et un nouveau peuple est né, appelé les Samaritains. Donc par ce mélange, c'est presque certain qu'ils avaient des traits physiques aussi différents, soit la couleur de peau, soit d'autres traits physiques. Mais ça se reconnaissait qu'ils étaient ce peuple mélangé. Et puis, les Juifs et les Samaritains se détestaient, pas seulement à cause de ça, mais à cause d'autres choses. Et donc les disciples vont demander un logement pour Jésus et les Samaritains, pleins de préjugés contre les Juifs, disent non. Le texte dit que c'est clairement parce qu'ils étaient Juifs et qu'ils allaient à Jérusalem. C'est pour ça qu'ils ont dit non, parce qu'ils étaient Juifs et qu'ils allaient à Jérusalem. Du racisme. Quel dommage. Bon, c'est sûr, très probablement ces Samaritains avaient rencontré des Juifs racistes aussi, qui les méprisaient parce qu'ils étaient mélangés. Très probablement, leurs parents avaient rencontré des Juifs racistes et avaient souffert du racisme. Et maintenant, c'était tellement ancré en eux qu'ils généralisaient. Tous les Juifs sont comme ça. Tous les Juifs sont racistes et n'aiment pas les Samaritains. Tous les Juifs nous méprisent parce qu'on est mélangés. Voilà. Et c'est dommage, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de regarder les visages et de s'intéresser à leur histoire. Regarde-nous, nos visages ont une histoire. C'est dommage, parce que s'ils avaient laissé de côté les préjugés, ils avaient pris le temps de connaître ces personnes, ils auraient accueilli le Dieu de l'univers dans leur maison, Jésus, le Dieu de l'univers. Ils auraient eu leur vie transformée, ils auraient su que le Dieu d'Israël était le même Dieu qui était disponible pour eux, un Dieu qui ne faisait pas de distinction entre race, entre nationalité, un Dieu accessible, un Dieu qui est proche de tous ceux qui le recherchent. Ce Dieu n'était pas en train de les juger parce qu'ils étaient mélangés. C'était totalement le contraire. C'était un Dieu qui était venu pour les aimer en Jésus. Et ils ont raté cette opportunité de découvrir ce Dieu-là. Et alors les disciples, ils sont sortis de ce village foudrage dans leur tête. D'abord, les Samaritains ne méritaient même pas avoir Jésus dans leur village, mais Jésus voulait s'arrêter chez eux. Il propose et il refuse. Alors ils sortent là en train de bouillir de rage, furieux comme ils étaient, Jacques et Jean demandent à Jésus, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie ?» Et là, on voit que c'est pas juste parce qu'ils ont été offensés qu'ils demandent ça, il y a aussi du préjugé de l'autre côté. Parce que plusieurs fois, Jésus avait été refusé dans un endroit. Plusieurs fois, les gens avaient refusé d'écouter ce qu'il disait. Mais c'est la seule fois où ils ont demandé que Jésus ordonne du feu qui descend du ciel contre ces personnes. Donc, il y avait clairement du préjugé contre les Samaritains de leur part aussi. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a répondu quelque chose de très similaire à Paul. Il a dit, Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre village. Jésus les a réprimandés comme Paul. Vous ne savez pas quel esprit est en vous. Est-ce que vous ne savez pas quel genre de message je prêche? Je prêche pas ce message-là. Je suis venu pour la réconciliation. Je suis venu pour sauver les âmes, pas pour les détruire. Je suis pas venu pour les détester. On n'est pas là pour juger selon les impressions qu'on a reçues par notre parcours de vie, par notre historique. Je suis pas là pour ça. C'est pas mon message, Jésus a dit. Et quand Jésus a dit dans un autre passage plus tard, en Luc 12, qu'il est venu pour amener le feu et l'épée, c'est pas pour dire qu'on devait détester les autres. Il a dit ça pour dire que si on croit en lui, les gens allaient nous détester. C'était le contraire. Il a dit que ça allait diviser les familles dans ce sens-là. Ça voulait dire que nous, on allait croire en Jésus et puis notre famille allait être contre nous. C'est pas que nous, on allait devoir porter l'épée contre quelqu'un. C'est que les autres allaient porter l'épée contre nous parce qu'on croyait. Dans le passage qu'on vient de lire, c'est très clair. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Il y a une histoire fantastique pour les enfants qui résume bien cette réconciliation que Jésus est venu apporter. Et on va la voir, et j'ai demandé à Sarah de la lire pour vous ce matin.
Au commencement, et même avant le commencement, Dieu a eu une très bonne idée. C'était une idée bien meilleure que les panneaux solaires, le canon à eau, la télévision en couleur, les cookies aux pépites de chocolat, les feux d'artifice, les patins roulettes, le radeau de sauvetage et la machine à rayon X, c'était encore bien mieux que ça. Dieu a eu l'idée de créer des gens, beaucoup de gens très différents, qui auraient tous du plaisir à l'aimer et qui auraient tous du plaisir à s'aimer les uns les autres. Ils seraient tous créés à son image. Ils seraient tous comme des petits miroirs qui reflèteraient l'image de Dieu. Puisque Dieu est rempli d'amour, ils seraient eux aussi remplis d'amour. Alors, Dieu s'est mis au travail. Il a créé un monde merveilleux pour que les gens y vivent. Puis, il a créé les premières personnes, un homme et une femme. Et il leur a dit, « Soyez heureux, prenez plaisir à m'aimer, à vous aimer les uns les autres, que votre grande famille remplisse toute la terre. Prenez soin de la terre et ayez du plaisir à le faire. » Dieu a continué à créer des gens. Ils étaient tous faits à son image. Ils étaient aussi tous très différents. Certains étaient des hommes, d'autres des femmes. Certains aimaient lire, d'autres aimaient faire du vélo. Certains avaient la peau foncée, d'autres la peau plus claire. Certains avaient des cheveux bouclés, d'autres des cheveux raides. Nous vivons aujourd'hui dans le monde de Dieu. Nous sommes tous différents, mais nous sommes aussi tous pareils. Chaque personne que tu vois est différente de toi, et en même temps, elle te ressemble aussi. Tu as parfois l'impression que les gens sont différents, qu'ils parlent une langue que tu ne parles pas, et jouent à des jeux que tu ne connais pas. Mais ils sont tous faits à l'image de Dieu, et c'est pour ça qu'ils ont tous une grande valeur. C'est ça la très bonne idée de Dieu. Mais, les gens ont complètement gâché la très bonne idée de Dieu. Les premières personnes que Dieu a créées ont choisi de ne pas aimer Dieu. Cela s'appelle le péché. Et parce qu'elles ont choisi de ne pas aimer Dieu comme elles auraient dû l'aimer, elles ont oublié comment s'aimer les unes les autres comme elles auraient dû s'aimer. Nous sommes tous pareils, nous choisissons de ne pas aimer Dieu. Nous sommes donc incapables de nous aimer les uns les autres comme il le faudrait. Nous péchons, parfois nous sommes méchants avec certaines personnes, juste parce qu'elles sont différentes. Les gens se battent entre eux, les gens sont méchants entre eux, les gens se moquent les uns des autres. Et puisque nous avons complètement caché la très bonne idée de Dieu, il n'est pas content de nous. À cause de notre péché, nous ne pouvons pas être ses amis. Nous ne pouvons pas avoir du plaisir à vivre avec lui. Nous avons besoin que Dieu nous pardonne d'avoir complètement gâché sa très bonne vie. C'est pareil pour tout le monde. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Les gens qui aiment lire ont besoin d'être pardonnés. Les gens qui aiment faire du vélo ont besoin d'être pardonnés. Les gens de la peau foncée ont besoin d'être pardonnés. Les gens à la peau plus claire ont besoin d'être pardonnés. Les gens aux cheveux bouclés ont besoin d'être pardonnés. Et les gens aux cheveux raides ont besoin d'être pardonnés. Et Dieu n'a pas été surpris quand les gens ont complètement gâché tout ce qu'il avait fait. Il a toujours eu un très bon plan pour sauver sa très bonne vie. Alors Dieu s'est mis au travail. Il est venu sur terre sous la forme d'une personne, Jésus. Dieu a aimé les gens qui étaient différents de lui. Jésus, pardon, a aimé les gens qui étaient différents de lui. Il a aimé les gens que personne n'aimait. Il a toujours pris plaisir à aimer les différentes personnes qu'il a rencontrées. Jésus nous a montré comment nous pouvons nous aussi trouver du plaisir à nous aimer les uns les autres. Mais les gens n'ont pas aimé Jésus. En fait, ils l'ont détesté. Ils l'ont fait mourir sur le croix. Mais cela faisait partie du plan de Dieu. Sur la croix, Jésus a pris tous nos péchés pour que nous soyons pardonnés. Jésus pardonne nos péchés. Jésus n'est pas resté mort. Il est revenu à la vie. Il est retourné vivre dans le ciel. Ensuite, il a donné son esprit aux hommes et aux femmes de la terre pour les aider à aimer tous ceux qui sont différents d'eux. Jésus nous aime à nous aimer les uns les autres. Un jour, Dieu finira de réaliser sa très bonne idée. Jésus reviendra et rendra à nouveau le monde parfait. Et tous ceux qui ont demandé à Jésus de le pardonner vivront dans ce monde, avec toutes leurs manques, toutes leurs couleurs de peau différentes. Ils auront du plaisir à aimer Dieu et à s'aimer les uns les autres. Ils auront du plaisir à célébrer Dieu, à le remercier d'avoir eu une si bonne idée et d'avoir sauvé et fini de réaliser sa très bonne idée. Mais voici une très 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 bonne nouvelle au sujet de la très bonne idée de Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre que Jésus revienne avant de pouvoir commencer à profiter de sa très bonne idée. Jésus reçoit avec joie tous ceux qui lui demandent d'être pardonnés. Et quand Jésus reçoit quelqu'un chaleureusement, il le reçoit dans sa famille pour toujours. Il reçoit les gens qui aiment lire et les gens qui aiment faire du vélo. Les gens à la peau claire et à la peau foncée. Les gens aux cheveux bouclés et aux cheveux ronds. La famille de Dieu s'appelle l'Église. Les amis de ton Église sont tes frères et sœurs. Une famille merveilleuse, une famille de toutes les couleurs. Tu peux avoir beaucoup de plaisir à les aimer et à aimer Dieu avec eux. C'est ça, la très bonne idée de Dieu. Tout plein de gens très différents qui aiment Dieu et qui s'aiment les uns les autres. Dieu a eu cette idée, les gens l'ont complètement gâchée, mais Dieu l'a sauvée et Dieu finira un jour de la réaliser. Avec les gens de ton église, ta grande famille, tu peux avoir du plaisir à vivre la très bonne idée de Dieu dès aujourd'hui.
Je me dis souvent que si quelqu'un peut expliquer quelque chose aux enfants, c'est qu'il a vraiment compris quelque chose. Et cet auteur, il a su exprimer cette vérité publique. L'Église peut accomplir quelque chose, apporter la réconciliation là où la société a échoué. Toute langue et toute couleur aura plaisir à aimer Dieu et à s'aimer les uns les autres. Ils auront du plaisir à célébrer Dieu, à le remercier d'avoir eu une si bonne idée de nous avoir créés différents. Merci Jésus pour nos différences, merci pour nos langues différentes, merci pour nos cultures différentes, pour notre apparence physique différente. Que Dieu fasse de cette Église cette véritable famille merveilleuse, de toute langue, de toute nationalité, de toute couleur, de tout contexte social. C'est vraiment une très bonne idée de Dieu que je veux vivre et je pense que vous aussi. Si vous voulez creuser un peu plus sur ce sujet, on a mis sur le site un témoignage d'un officier de l'armée de salut noir à Chicago, aux États-Unis. Il a fait une vidéo spécifiquement pour nous dans cette série où il a partagé ses sentiments et son vécu